Accent d'Europe, Juliette Rangeval.
Bonjour. Menacé aux États-Unis, le droit à l'avortement reste un droit fragile pour les femmes. En Europe, la question divise et ces divisions se constatent très régulièrement au sein du Parlement européen pour les pays membres de l'UE. En Pologne, depuis le durcissement de la loi sur l'interruption volontaire de grossesse en octobre 2020, dans un pays où celle-ci était déjà très sévère, avorter est devenu presque impossible. Une situation à laquelle sont confrontés aussi les réfugiées ukrainiennes ayant cherché asile en Pologne. Certaines sont tombées enceintes après avoir été violées par des soldats russes en Ukraine. À Varsovie, les précisions de notre correspondante Sarah Bakaloglou.
Entre le 1er mars et le 1er mai, le collectif Avortement sans frontières a été contacté par 326 femmes venant d'Ukraine et souhaitant avorter, un collectif qui les a aidées à recevoir des pilules abortives ou à se rendre dans d'autres pays pour pouvoir interrompre la grossesse. Selon Abortion Support Network, les femmes ukrainiennes sont choquées que l'avortement ne soit pas possible en Pologne et si théoriquement avorter reste légal en cas de viol, dans les faits cela est quasi impossible car il faut déclarer le viol à la police et recevoir un certificat d'un procureur attestant que celui-ci a eu lieu, des démarches d'autant plus compliquées pour ces femmes ukrainiennes ayant été violées dans un autre pays, l'Ukraine. Depuis le durcissement de la loi sur l'avortement, les femmes polonaises sont donc de plus en plus nombreuses à se tourner vers les associations. C'était à l'automne 2020, le tribunal constitutionnel, contrôlé par le pouvoir, avait interdit l'avortement en cas de grave malformation du fœtus. Entre janvier 2021 et janvier 2022, Avortement sans frontières a par exemple aidé près de 33 000 polonaises à interrompre leur grossesse, 5 fois plus qu'auparavant. La Fédération pour les femmes et le planning familial en Pologne, qui a une ligne téléphonique d'assistance, a reçu de son côté 3 fois plus d'appels. En Pologne, les femmes qui avortent clandestinement ne peuvent pas être poursuivies en justice, mais en revanche, toute personne qui les aide encourt jusqu'à 3 ans de prison, et c'est ce que risque la militante Justyna Wydrinska, actuellement poursuivie en justice. La Polonaise a aidé une femme enceinte à obtenir des pilules abortives, ce qui a été dénoncé à la police par son mari. Selon Amnesty International, cette affaire est la première du genre en Europe. Une première audience a eu lieu le 8 avril, la prochaine est prévue au début de l'été.
En Croatie, la loi garantissant l'accès à l'avortement date de l'époque socialiste yougoslave, mais depuis l'indépendance en 1991, les attaques se multiplient contre ce droit et il devient de plus en plus compliqué pour les femmes d'interrompre leur grossesse. Avorter en Croatie, la croix et la bannière, c'est un reportage réalisé par Simon Rico avec le soutien du journalismfund.eu.
Dans la très catholique Croatie, le carême, qui précède Pâques, est devenu une période d'intense lobbying pour les militants anti-avortement. C'est le moment où se tient la campagne baptisée 40 jours pour la vie, organisée par des associations proches de la puissante mouvance intégriste, avec des rassemblements dans les grandes villes de Croatie et des prières devant les hôpitaux pratiquant l'IVG. Pour les associations féministes, la cléricalisation croissante de la société croate a fini par stigmatiser l'avortement, devenu un véritable tabou, ce que dénonce Ivana Peric du collectif Factive.
Ces 20 dernières années, il est devenu de plus en plus compliqué pour les femmes de parler d'avortement ou d'interrompre volontairement leur grossesse. Au sein même des institutions médicales, on les regarde mal, on les ridiculise, on les met même parfois dehors et on leur fait comprendre qu'elles sont en train de vouloir commettre un crime, juste parce qu'elles désirent bénéficier d'un droit pourtant fondamental. Cela survient alors que des groupes religieux accroissent leur pression sur ce sujet depuis une décennie avec leurs discours qui influencent l'ensemble de la société croate.
En 2018, une étude commandée par la médiatrice à l'égalité des genres a révélé que 59% des gynécologues obstétriciens de Croatie refusaient de pratiquer l'avortement en faisant jouer leur clause de conscience, un chiffre qui ne cesse de grimper. Dans la Slovénie voisine, pays aussi de tradition catholique, on en compte moins de 5%. De fait, la Croatie affiche un taux d'avortement extrêmement bas, à peine 67 pour 1000 naissances. Un taux d'autant plus bas que certains praticiens maquillent les IVG en fausse couche, comme l'explique Daniela Drandić, fondatrice de Droda, une ONG qui sensibilise à l'éducation sexuelle.
Voilà autre chose que font les gynécologues en Croatie. La patiente vient pour une IVG, le médecin leur dit « revenez après 16 heures et dites que vous saignez ». La patiente revient après 16 heures, le docteur la reçoit, elle déclare qu'elle saigne, elle paye en liquide et le médecin déclare l'acte comme une fausse couche aux autorités de santé. Légalement, c'est la même procédure, mais c'est mieux vu pour le gynécologue comme pour la patiente. Le praticien est payé, l'hôpital aussi, donc comme ça, tout le monde est content.
Tout le monde est content parce que personne n'aura à assumer publiquement le fait d'avoir demandé ou d'avoir pratiqué un avortement. La minorité de gynécologues croates qui osent pratiquer l'avortement recourent en outre rarement aux techniques médicamenteuses, pourtant moins douloureuses. Dorothea Chouchak, la directrice du Centre d'études féminines, dénonce la volonté d'une partie du corps médical croate de punir les femmes souhaitant une IVG.
L'ancienne députée Ivana Ninetchevich-Lesandrić a médiatisé les mauvais traitements imposés à certaines femmes lorsqu'elles veulent obtenir une interruption volontaire de grossesse. Certains médecins pratiquent en effet l'avortement par curetage, sans anesthésie. Ça ressemble à une forme de punition, puisqu'il ne s'agit certainement pas d'une pratique médicale recommandée en Croatie, surtout dans les centres de soins officiels.
Pour ne pas souffrir et s'assurer qu'on ne leur refusera pas cette intervention, de plus en plus de femmes croates préfèrent partir avorter en Slovénie, mais aussi en Bosnie-Herzégovine et en Serbie. D'autant que l'IVG n'est pas remboursé par la sécurité sociale croate et que les tarifs sont moins élevés dans ces trois pays limitrophes. L'association Hrabra Sestra, les Sœurs Courageuses, est un réseau d'entraide créé en 2020 pour soutenir toutes celles ayant du mal à avorter en Croatie. Jelka Sartori, l'une de ces sœurs courageuses, se souvient particulièrement d'une jeune femme qu'elle a accompagnée.
C'était une étudiante de 20 ans. Le plus terrible, c'est qu'elle n'avait pas osé parler à ses parents du fait qu'elle allait se faire avorter, pas même à sa mère, qui travaille pourtant dans le secteur médical. Elle n'avait donc pas confiance en sa propre famille. Voilà qui est particulièrement révélateur des mentalités qui prévalent aujourd'hui en Croatie sur ce sujet. Pour moi, il est important de raconter cette histoire, parce qu'il ne devrait y avoir aucune honte à dire publiquement que l'on veut recourir à une IVG.
En 2017, la Cour constitutionnelle de Croatie avait donné 2 ans aux législateurs pour modifier la loi yougoslave de 1978 qui régit toujours le droit à l'avortement dans le pays. Une décision prise sous la pression du mouvement pro-life qui demandait depuis un quart de siècle aux juges de statuer sur la légalité de ce texte transposé à l'identique dans la Constitution après l'indépendance. Depuis, la très conservatrice droite au pouvoir s'est bien gardée de s'attaquer à ce sujet hautement polémique pour ne pas froisser la base de son électorat très proche de l'Église. Quant aux militantes féministes, elles craignent que la Croatie ne revienne en arrière et emboîte le pas à la Pologne, où le droit à l'IVG n'est même plus garanti.
En République d'Irlande, l'accès à l'avortement continue d'être difficile. 2 ans après sa légalisation, seules 10 maternités effectuent des avortements. Les listes d'attente sont parfois longues, la prise en charge compliquée. Mais le gouvernement a promis d'accélérer le développement de ses services d'ici la fin de l'année, Laura Taouchanoff.
C'est la combinaison de 2 facteurs. Le premier, un refus de beaucoup de médecins opposés à l'avortement pour des raisons religieuses la plupart du temps. En Irlande, seuls 10% des professionnels acceptent de pratiquer des IVG. Légalement, seuls les médecins en libéral peuvent s'y opposer. Ce n'est pas le cas d'un hôpital, mais dans les faits, ils ne respectent pas toujours la loi. Le second problème, c'est un manque de structures adaptées, puisque moins de la moitié des maternités proposent des avortements aujourd'hui. Ces femmes enceintes ne peuvent pas non plus tourner vers l'Irlande du Nord voisine. La situation n'est pas mieux là-bas. Alors, sous la pression des associations qui rappellent souvent l'histoire dramatique d'une jeune femme décédée d'une septicémie après que sa demande d'avortement lui a été refusée, le gouvernement a décidé de passer à la vitesse supérieure. Des fonds supplémentaires viennent d'être débloqués pour embaucher davantage de gynécologues. Alors, bien sûr, les cadres de santé ne peuvent pas demander aux candidats ce qu'ils pensent de l'avortement pendant le processus d'embauche, mais ces recrutements commencent à porter leurs fruits. Un hôpital de l'Ouest vient de réaliser ses premiers avortements au mois d'avril. L'objectif, c'est que les trois quarts des maternités du pays soient prêtes d'ici à la fin de l'année.
It was a woman's voice, and it was such an anguished, heart-wrenching sound.
En Italie, les militantes féministes se mobilisent sans relâche contre les violences de genre, mais aussi sur les questions de parité ou sur l'accès à l'avortement. Très actif, le mouvement Non Una Di Meno, pas une de moins, a créé ces dernières années un important réseau sur tout le territoire. Dans la lignée de la lutte des femmes argentines contre les féminicides et pour l'accès à l'IVG, le mouvement italien s'est lancé en 2016. Il incarne le renouveau du féminisme en Italie, une nécessité pour ces Italiennes qui coordonnent ainsi la défense de leurs droits encore mis à mal aujourd'hui. Reportage à Rome de Blandine Hugonnet.
Place de la République, en plein centre de Rome, une marée fuchsia déferle dans les rues. Plus de 20 000 Italiennes de tous âges se sont rassemblées à l'occasion de la journée des droits des femmes. Jeune militante, Gemma porte sur sa bouche le foulard rose, emblématique de Non Una Di Meno.
En tant que féministe occidentale, pour moi aujourd'hui le féminisme italien, c'est devoir combattre un machisme plus insidieux. Parce que, disons que le problème n'est pas seulement, entre guillemets, que les hommes me font peur. Le problème c'est aussi que je serai moins bien payée qu'eux.
Malgré la loi sur la parité entrée en vigueur cette année, après son diplôme en communication, Gemma sait qu'elle touchera un salaire 30% moins élevé que ses collègues masculins. Contre ces disparités encore fortes, ce n'est pas seulement pour manifester, mais bien pour faire grève que ces Italiennes descendent dans la rue, insiste Elisa, activiste de 26 ans.
On demande aux travailleuses de tout secteur de ne pas travailler pour montrer que, comme on le dit dans nos slogans, si nous, nous nous arrêtons, le monde s'arrête. Et ça vaut autant pour le travail productif, les usines, les bureaux, que pour ce qu'on appelle le travail reproductif, c'est-à-dire domestique. Parce que nous voulons dénoncer la charge de travail des femmes, qui, surtout pendant la pandémie, a été toujours plus lourde et n'est toujours pas reconnue.
Et que non venga nemmeno riconosciuto.
Mener des actions et faire du bruit pour réveiller les consciences face au patriarcat bien ancré en Italie fait partie de l'ADN de Non Una Di Meno. Aller dans les lycées, multiplier flash mobs et protestations pour empêcher la fermeture d'un refuge pour femmes battues, dénoncer un centre médical opposé à l'avortement et faire appliquer les lois existantes. En quelques années, la mobilisation féministe a explosé, orchestrée par les rencontres hebdomadaires d'un réseau de 70 groupes sur le territoire italien. Objectif, selon leur expression, maintenir un état d'agitation permanente.
C'est sûr, on ne s'arrête jamais, mais on est obligé. Il y a encore une femme qui nous a écrit pour nous dire que la pharmacie n'a pas voulu lui donner la pilule du lendemain.
Graziella, qui roule une cigarette, retrouve ce soir-là des dizaines de militantes dans un squat romain. Féministe de la première heure, cette infirmière retraitée s'est battue dans son hôpital en 1978 pour faire appliquer la toute nouvelle loi autorisant l'IVG. Dans une Italie conservatrice, c'est un combat encore actuel qu'elle mène désormais au sein de Non Una Di Meno.
Ah mais c'est honteux en Italie et c'est nous qui l'avons révélé. Plus de 70% des gynécos sont objecteurs de conscience. Dans le sud, on arrive même à 100%. Donc avec les réunions de femmes comme on fait, on essaie de contrôler ça, de gérer ça, mais c'est difficile en Italie. On a le pape, nous.
Aux côtés de la septuagénaire Micaela, trentenaire, une des fondatrices de ce mouvement intergénérationnel, Non Una Di Meno incarne un nouveau militantisme qui réunit aussi tous les courants féministes et transféministes, toutes les identités sexuelles. C'est ce qui fait la force de ce mouvement pluriel, inspiré des activistes argentines, qui a réussi à mobiliser, dès sa première année, plus de 150 000 Italiennes en colère dans les rues de Rome.
Il y a des militantes âgées qui viennent des combats politiques des années 70. Il y en a qui viennent du social, des centres anti-violence. Non Una Di Meno a eu aussi le courage de créer un mouvement intersectionnel, c'est-à-dire qui permet de prendre en compte le genre, l'origine et la classe sociale, comme des catégories qu'on ne peut pas comprendre séparément. Et puis, pour la première fois, on a eu la capacité de s'inscrire dans une lutte mondiale contre le patriarcat. Pour nous, le féminisme est une lutte politique qu'on ne peut pas mener qu'au niveau national.
La lutte a commencé pour dénoncer le fléau des féminicides. Le mouvement vient ainsi de créer un observatoire qui recense chaque victime, une tous les trois jours en Italie. Dès ses débuts, il y a 6 ans, Nonnuna Di Meno a rédigé un plan anti-violence, sorte de manifeste politique, qui revendique un revenu minimum aux victimes pour assurer leur indépendance économique, des banques de données des abus sur le lieu de travail et des formations sur le genre dans les parcours scolaires pour mettre fin aux stéréotypes. Maria Arena est documentariste, elle a suivi les activistes pendant 3 ans. Pour la réalisatrice sicilienne, après 20 ans d'objectivation de la femme sous Silvio Berlusconi et un recul des droits sous l'influence de l'extrême droite de Salvini, Nonnuna Di Meno a finalement réussi à réhabiliter le féminisme en Italie.
Le but profond du mouvement, c'est de pouvoir redonner au terme féminisme, qui au fil des ans en Italie a fini par avoir une connotation négative, de pouvoir lui redonner son sens légitime, qui est celui de la défense des droits. Je dois dire que depuis Nonnuna Di Meno, en Italie, les féminismes sont en effervescence, même si les institutions et les grands médias ont encore du mal à en parler. Peut-être parce qu'il y a une sorte de peur de ce nouveau féminisme, qui est pourtant une vision politique qui apparaît aujourd'hui encore nécessaire.
Aussi actives soient-elles, les féministes n'apparaissent en effet jamais en une de la presse italienne ou sur les plateaux télé. N'empêche, leur combat politique continue. Nonnuna Di Meno prépare déjà une mobilisation de masse en novembre prochain à Rome contre les violences faites aux femmes.
Parmi les conséquences de la guerre en Ukraine, il y a les inquiétudes sur un risque de débordement du conflit en Moldavie autour de la Transnistrie. Il s'agit d'une république autoproclamée, une région séparatiste, pro-russe, à l'est de la Moldavie, à quelques pas de la frontière ukrainienne. Gros plan aujourd'hui sur un homme qui détient beaucoup de pouvoir dans cette région. Cet homme, c'est Victor Gouchan, surnommé le shérif de Transnistrie par la presse moldave. D'abord parce que c'est le cofondateur du conglomérat d'entreprises Shérif, mais aussi parce que Victor Gouchan est un homme politique important. Son portrait est signé Martin Chabal.
Ancien membre du KGB, Victor Gouchan est forcément un homme très mystérieux. Ses liens avec la politique ont pris de l'importance à mesure que son entreprise a grossi. Il est estimé que Shérif, et donc Gouchan, contrôlerait plus de 60% de l'économie de la région, ce qui lui donne un pouvoir de décision important, selon Florent Parmentier, secrétaire général du Centre de recherche politique de Sciences Po et co-auteur du livre « La Moldavie à la croisée des mondes ».
Mais Victor Gouchan fait un peu partie de ces hommes de l'ombre qui ont une importance sur le processus de décision politique. Monsieur Gouchan tire les ficelles tout simplement parce qu'il est en mesure de capter une bonne partie des ressources de la République de Transnistrie. Capter des ressources en Transnistrie, ça veut dire être capable de mener un certain nombre de trafics avec des partenaires russes, des partenaires ukrainiens, mais aussi des partenaires moldaves.
Cet oligarque contrôle des entreprises dans ces trois pays. Si la Transnistrie rêve d'être rattachée à la Russie, Victor Gouchan a plus d'intérêt à rester neutre dans le conflit de l'autre côté de la frontière. Florent Parmentier.
Une grande partie des marchandises qui arrivent en Transnistrie ou qui sont exportées depuis la Transnistrie passent aujourd'hui par le port d'Odessa. Donc il est ouvert. Et donc, en quelque sorte, la Transnistrie pouvait exister en tant qu'entité séparatiste tant qu'il y avait une forme de stabilité régionale où elle pouvait à la fois corrompre des officiels en Russie, en Ukraine, en Moldavie. Aujourd'hui, dans un contexte de guerre, les conditions de la fortune de Victor Gouchan sont peut-être moins assurées que par le passé. Victor Gouchan a davantage intérêt à garder une situation dans laquelle la Transnistrie est neutre de manière à pouvoir continuer à faire un certain nombre d'affaires, plutôt qu'à lancer ou être partie prenante du conflit.
Sabine von Lewis, chercheuse au Centre franco-allemand des études internationales, insiste, elle, sur le rôle que joue l'Union européenne pour Victor Gouchan.
Je dirais que Gouchan n'a pas de grands intérêts dans cette guerre, parce que ce qui est intéressant dans le développement de la Transnistrie ces dernières années, c'est que depuis 2016, elle fait partie de l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et la Moldavie. Donc la Transnistrie et Shérif profitent des exports vers l'Union européenne. Vous pouvez acheter par exemple du cognac de Transnistrie ou du caviar. Ce contexte géopolitique n'est donc pas favorable aux relations économiques de Gouchan.
Depuis le début de l'invasion russe en Ukraine, le shérif de Transnistrie est resté très discret, comme à son habitude.
Accent d'Europe à la réalisation, Françoise Grelot. Vous retrouvez le podcast de l'émission sur rfi.fr ou sur les plateformes d'écoute. Et bien sûr, vous pouvez vous abonner. À bientôt.